Bonjour à tous et bienvenue dans HebdoCom, votre émission média pub et com sur BFM Business. Toute l'actualité de nos communicants et acteurs du monde de l'information, de la diffusion, des plateformes et des réseaux sociaux. HebdoCom saison 2, épisode 37, c'est parti.
BFM Business et CB News présentent HebdoCom, Rebecca Blanc-Lelouch.
Au programme aujourd'hui, les Cannes Lions 2024, 48 lions français, 10 prix pour l'agence Marcel. Et c'est Pascal Nessim, le coprésident de Marcel, qui est notre invité aujourd'hui et qui nous raconte toutes les coulisses de ces victoires. Comme d'habitude, Simon Tenenbaum passera en revue pour nous toutes les news d'HebdoCom de la semaine. Et enfin, pour finir, plus que quelques jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, comment le plus grand événement mondial sportif se prépare dans un contexte politique de crise? Le rêve olympique existe-t-il toujours? C'est notre focus du jour, mais d'abord j'accueille mon invité, et c'est le patron de l'agence Marcel, Pascal Nessim. Bonjour Pascal Nessim.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans HebdoCom. Vous êtes coprésident de l'agence Marcel. Alors, vous revenez à l'instant des Cannes Lions 2024. Vous avez tout raflé. Marcel a remporté 2 grands prix, 3 golds, 2 silvers et 3 bronzes pour la campagne Les Bleus pour Orange. Est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce que quand vous avez conçu cette campagne, vous vous êtes dit « Oh, celle-ci, quand même, elle mérite un lion ».
Carrément.
C'est vrai.
Tout de suite. C'est un peu la magie de notre métier. Les créatives... On fait des briefs et puis les créatifs nous présentent des idées qui finalement sont plus de leur bouche que des images. Et tout de suite, quand ils nous ont parlé de cette idée et qu'on l'a vue, en tout cas, on s'est dit, elle a un vrai potentiel. Voilà. Ensuite, l'interrogation au moment où ils vous la présentent, avant d'y croire, il faut commencer à la voir assemblée puisque il fallait être sûr qu'on arrive vraiment à créer le spectacle qu'on a fait en trouvant les plans qu'il fallait trouver. À la fois chez les filles, à la fois chez les garçons.
Et alors, il y a une particularité quand même sur cette campagne, c'est que tout a été fait à base d'images d'archives.
Tout à fait.
Vous pouvez nous raconter un peu
la création. Oui, tout à fait. Il y a une équipe, une petite boîte d'ailleurs, qui s'appelle les Artisans du Film, qui ont travaillé en amont à poncer des matchs de l'équipe de France féminine, de monter la bande-annonce dont il rêverait, là, une bande-annonce ultra spectaculaire à travers ces images, et puis ensuite à trouver les plans de garçons qu'ils ont plaqués dessus. Et ça donne un premier montage où on voit bien que les actions sont exactement les mêmes, la vitesse est exactement les mêmes, rien n'a été rajouté, rien n'a été accéléré. Mais ensuite, pour que le piège soit parfait, il y a un travail qui a été fait chez Prodigious, donc une boîte de post-production du groupe Publicis, qui a, avec des effets spéciaux, gommé un peu toutes les petites imperfections qu'il pouvait y avoir au moment de la superposition. Les garçons ont des mollets un peu plus gros, des fois les tenues, les flottants ne sont pas exactement les mêmes, donc il y a eu un travail assez long, hein, beaucoup de monde, c'est une vraie prouesse, de travail manuel, à un moment où on parle que d'IA,
pas d'intelligence artificielle.
Alors, il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle existe dans les logiciels d'effets spéciaux. C'est-à-dire qu'elle aide, on l'a vu sur Photoshop ou des logiciels comme ça. Donc, elle aide à aller beaucoup plus vite sur la retouche. Mais il n'y a pas eu d'intelligence artificielle dans le sens, on n'a pas inventé des images qui n'existent pas. Voilà, c'est juste, ça permet d'aller un peu plus vite dans les retouches des différents éléments.
De productivité.
Voilà. Exactement.
Quand on reçoit un lion, aujourd'hui, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit un gold, un silver, un grand prix au Cannes Lions, est-ce qu'il y a un impact pour une agence que vous arrivez à mesurer, qui soit financier, qui soit en termes d'image, en termes de popularité?
Alors, ouais, il y a un impact, sinon on ne ferait pas ça. Voilà, c'est un boulot énorme, c'est des investissements quand même importants. Donc oui, il y a un impact. Il y a un impact d'abord parce que nous, notre histoire, c'est d'être une agence créative. Et je dirais, la seule façon de mesurer un peu où on en est dans la créativité, c'est les festivals, et en particulier les Cannes Lions, qui est le festival, je crois, il y a eu 30 000 dossiers inscrits quasiment cette année. Donc ça montre un peu, il y a l'ensemble de le meilleur de la créativité mondiale qui est à Cannes. Donc là, pour nous, se mesurer là-dedans, on est un peu des compétiteurs aussi. Et donc, ça nous met l'énergie tout au long de l'année pour y aller. Quand on gagne, ou même quand on participe, même quand on fait une shortlist tellement c'est dur Cannes, eh ben oui, ça met une énergie dans toute une agence. Donc ça, il faut bien le jouer. C'est une façon de le gérer dans une agence, mais c'est jamais le bénéfice d'une équipe, d'un team de créatifs. C'est toute une équipe qui est autour. C'est une culture d'agence tout entière qui est derrière. Orange, les Bleus, ça arrive pas par hasard. Voilà, ça arrive chez Marcel parce que c'est une agence qui a ça en elle, qui a cette culture-là en elle. Donc ça, c'est ultra bénéfique. Ensuite, bien entendu, ça nous permet de recruter les meilleurs talents du monde. Voilà, on fait un métier, c'est de la création. On cherche des créatifs, des planeurs, des commerciaux pour assembler tout ça. Et finalement, bah, faire une campagne qui brille comme ça, on reçoit des CV des États-Unis, on reçoit des CV d'Inde, on reçoit des CV du UK. Donc ça c'est encourageant. À une période où finalement nos métiers, on l'a tous entendu pendant des années, peinent à recruter, puisqu'il y a des questions sur le fondement même de ce métier-là. Et donc ça, c'est ultra bénéfique.
Et alors le Grand Prix Film, d'abord, pourquoi il est si dur à obtenir? Pourquoi il y a une espèce de consécration autour de ce Grand Prix-là?
Bah, il est si dur parce qu'on considère depuis toujours que le film, c'est un peu l'achievement de notre métier. Tous les créatifs du monde rêvent de faire un grand film. Voilà, comme on en avait en France, je pense à Lacoste, SNCF plus récemment. Il y a une saga Renault qui est très belle aussi. Donc le grand film, c'est quelque chose de que vont rechercher toutes les agences. Nous, Marcel, on a une histoire un peu particulière puisqu'on a à la base une agence digitale. Donc, on n'a jamais baigné dans la grande marmite académique de la publicité. Voilà, on a toujours été un peu challenger. Alors, avoir un grand prix avec ce film, je crois que c'est la première fois en 70 ans, plus de 70 ans qu'existent les Cannes Lions, on donne un grand prix finalement où il n'y a même pas de réalisateur derrière. Finalement, sur un film dans lequel on n'a pas de production.
Tout est fait à base d'archives.
Il a coûté, ça doit être le moins cher des grands prix ever.
Comme quoi?
Oui, et donc ce que je me dis, c'est que ça va ouvrir certainement à cette catégorie tous les nouveaux films qu'on voit, qu'on ne reconnaît pas aujourd'hui forcément comme des films publicitaires, mais qui malgré tout font exactement le même job sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, etc.
Et alors l'autre point intéressant, c'est qu'il y a souvent des tendances aux Cannes Lions tous les ans, après la consommation, la communication responsable, les applications de rencontres. Est-ce que vous avez le sentiment que l'hystérie de l'intelligence artificielle est derrière nous, ou à l'inverse, est-ce qu'on n'arrive pas encore vraiment à appréhender l'intelligence artificielle générative?
Alors, on a vu quelques cas sympas, chouettes avec l'intelligence artificielle. J'ai fait coup sur coup Vivatech et les Cannes Lions. Alors Vivatech, on avait de l'IA absolument partout, voilà, avec des applicatifs qui deviennent hyper intéressants, bien au-delà de la communication, bien sûr. À Cannes, j'ai vu relativement peu de campagnes intéressantes avec de l'IA. Je pense qu'on est toujours sur le purpose, ça se voit, voilà, on cherche le sens.
Communication de...
Voilà, on cherche le sens, tout le monde cherche le sens, les grands groupes cherchent le sens, donc finalement, c'est assez intéressant pour nous, en tant que métier, dans notre métier, se détacher un petit peu du produit. Et là où ça va devenir magique, c'est quand tout ça se nourrit bien et que finalement, on arrive à continuer à vendre des produits tout en essayant de donner du sens sur la manière de les consommer, etc.
C'est en train de devenir une norme, en fait, dans la création.
Exactement. Et voilà, je pense que toutes les grandes marques ont compris que, en tout cas, c'était un pilier à travailler absolument.
Donc 48 lions au total de cette édition pour les agences françaises. Aujourd'hui, où en est la France dans le paysage de la créativité mondiale? On sait que les Anglo-Saxons, les Britanniques sont très hauts dans le classement. Comment est-ce que nous, on peut remonter et...
On a longtemps souffert en France d'avoir un ranking créatif qui ne correspondait pas, je dirais, au ranking de la valeur du pays et des marques qui sont françaises. Je pense que depuis déjà des quelques années, il y a une énergie qui est mise, qui est d'ailleurs pas mal impulsée par Marco Venturelli, qui dirige,
de création,
qui est patron création de Publicis France, donc également de Marcel, et puis aussi spécifiquement patron créatif de Publicis Conseil, qui est la grosse agence du groupe Publicis, donc un peu le phare, celle qui donne le cap. Et je me souviens de ses mots quand il est arrivé il y a quelques années, où clairement son ambition, c'était de remettre la France dans un des top 3 pays mondiaux. Et bien entendu, pour attirer, ou en tout cas pour essayer de de se battre un peu plus contre les hubs anglo-saxons qu'on voyait à Amsterdam, à Londres, et qui attiraient finalement toutes les grandes marques internationales
aujourd'hui,
chez
eux. On est quoi ? On peut dire qu'on est dans le top 5 ?
Bah, écoutez, je pense que, en tout cas, voilà, j'ai vu les scores. Alors, hélas, c'est surtout les agences Publicis, pas hélas, mais tant mieux, c'est surtout les agences Publicis qui ont vraiment, vraiment fait un beau canne, un beau palmarès cette année. Je ne sais pas quelle est la place, le ranking français de cette édition, mais je trouve, à travers des campagnes comme Orange Women's Football, qu'on sort des campagnes qui rayonnent bien dans le monde entier et automatiquement, ça paiera.
On est sur le chemin.
Oui, on est sur le chemin.
Vous êtes à la tête de Marcel depuis 15 ans. Le leitmotiv de l'agence a toujours été le digital et l'intégration des cultures pour sortir un peu de ce modèle des agences traditionnelles, des agences plus classiques. Aujourd'hui, quelle est votre stratégie en 2024 pour les années à venir, votre singularité à vous ? Comment est-ce que vous arrivez à vous renouveler ? Est-ce que c'est toujours le digital ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Et une autre question par la même occasion, qui sont vos concurrents ?
Alors, sur la première question, je pense que, en tout cas de mon point de vue, qui est toujours peut-être un peu personnel là-dessus, la vraie transformation de notre métier, c'est pas vraiment le digital. Voilà, le digital, finalement, on l'a abordé comme un canal supplémentaire. Il y a ceux qui ont trouvé ça super, il y a ceux plus conservateurs qui ont dit c'est de la merde, on n'ira jamais là-dessus. Mais en gros, il y a ceux qui ont vu le digital comme un terrain de jeu additionnel et on a fait notre métier sur le digital de la même manière qu'on fait les campagnes qui finissent en affichage ou au cinéma. Je prends un brief, je réfléchis, je réponds, je te présente, etc. La vraie transformation, je pense, elle est humaine.
C'est-à-dire,
c'est la prise de conscience que l'actif d'une agence, c'est bien sûr ses clients, mais c'est surtout les gens qui travaillent pour ses clients. Aujourd'hui, le challenge pour des agences, et c'est ce qu'a réussi Marcel pendant 15 ans, c'est être dans son époque, voire légèrement en avance de phase de son époque. Donc, il y a eu le virage sur le digital que nous, on n'a eu aucun mal à prendre puisqu'on est une agence digitale par nature. On a toujours cru que la culture digitale allait finalement rejoindre les autres médias et on le voit avec, encore une fois, le film Orange. Voilà, on pourrait se dire c'est un film de culture digitale, mais finalement, il a parfaitement sa place à la télé ou dans les grands médias
traditionnels
aujourd'hui. Il y a des enjeux maintenant, ce qui s'annonce devant nous, c'est des enjeux de productivité. L'IA, c'est pas neutre. Voilà. Aujourd'hui, les annonceurs aussi commencent à demander des comptes sur comment vous allez intégrer l'IA pour qu'on puisse gagner en productivité. Là, on a la chance de faire partie d'un groupe Publicis qui est en train de mettre en place les fameuses Core IA, qui nous permettra chez Publicis d'être plus compétitifs chez les autres. Et puis ensuite, il y a l'IA dans la création. Et ça, c'est intéressant puisque c'est un nouveau terrain de jeu qui arrive pour les créatifs. On a sorti une magnifique campagne pour Lidl qui s'appelle Lidlize, qui finalement tu tapes un objet et l'IA te génère cet objet façon Lidl instantanément. Et quand tu fais ça avec une marque pop culture comme Lidl, et ben tout de suite ça te fait des millions et des millions.
Mais vous qui parliez de l'humain, vous n'avez pas peur justement que ça vienne un peu remplacer la crainte de l'univers, de la pub et que dans la création ça remplace justement.
Non. En fait, nous, on aime faire de la création, on aime travailler sur les idées. Tout ce qui peut nous aider à nous soulager des tâches qu'on n'aime pas faire, bah, tant mieux. Donc aujourd'hui, on en est un peu là. Je trouve que tout ce qu'on fait avec l'IA, tu utilises ChatGPT pour traduire, ça va super vite, ça traduit super bien. Bon, on se dit super, on a trouvé une super IA pour nos traductions. En production, il y a des IA qui arrivent. Je pense que la valeur des agences, c'est d'emmener 100% de leurs équipes là-dedans, c'est-à-dire que chaque personne à l'agence doit prompter. Ça fait gagner de l'autonomie à des profils, ça leur donne aussi de la valeur. Donc pour l'instant, franchement...
Des formations en interne de prompting.
Ouais. Tout le temps. C'est de l'auto-formation, département par département, pour voir comment l'IA peut aider le planning stratégique, comment l'IA peut aider les commerciaux, comment l'IA peut aider la gestion, comment l'IA peut aider la prod et la création. Donc à chaque fois, c'est des groupes qui s'auto-forment spécifiquement. Aujourd'hui, il faut tester différents produits qui arrivent sur le marché. Et voilà, donc on le fait beaucoup avec le planning, avec la création.
Merci beaucoup, Pascal Nessim.
Eh ben, merci à vous.
Merci d'être venu dans l'émission. Je le rappelle, vous êtes coprésident de l'agence Marcel. Tout de suite, c'est les news de Simon Tenenbaum.
Nvidia, première capitalisation au monde, mais une marque encore inconnue. Le fabricant de puces qui a rejoint le clan des géants de la bourse aux côtés d'Apple, Microsoft, Amazon et Google n'apparaît pas en effet dans le dernier classement Interbrand, alors que les autres géants de la tech trustent les premières places. Une absence d'Nvidia qui s'explique par son ascension fulgurante et son profil B2B. Nvidia n'a pas encore beaucoup travaillé son image grand public, souligne Interbrand sur CNBC, mais l'entreprise va sans doute gagner en popularité dans les prochains mois. Elle pointe déjà à la 6e place du classement des marques les plus valorisées établi par Kantar. Selon Interbrand, la connaissance de la marque Nvidia a déjà quadruplé auprès du grand public depuis un an. Netflix, encore un nain de la pub en ligne. Le groupe a beau dominer le marché du streaming, son incursion récente dans la pub est encore modeste. Un chiffre d'affaires de 400 millions de dollars selon des données compilées par Bloomberg. Très loin encore des géants de la télé comme Disney avec près de 9 milliards de dollars et encore plus loin de YouTube et ses 13 milliards de dollars de recettes publicitaires vidéo. Netflix revendique 40 millions d'utilisateurs mensuels sur ses offres avec pub, mais le groupe doit encore apprendre et augmenter son inventaire, d'où ses incursions de plus en plus prononcées dans le live et le sport. Selon Bloomberg, Netflix envisage également de tester sur certains marchés des offres gratuites, entièrement financées par la publicité. Une expérimentation au Kenya a ainsi eu lieu l'an dernier. Toys R Us tente de relancer sa communication avec une pub conçue par l'intelligence artificielle. Le groupe revendique une première mondiale, celle du premier spot entièrement réalisé par Sora, l'IA générative vidéo lancée il y a quelques mois par OpenAI. Un spot d'un peu plus d'une minute réalisé à coups de prompt. Seules quelques corrections ont été faites sur les effets spéciaux et une musique originale a été ajoutée. Le spot présenté au Cannes Lyon pourrait accompagner la relance de la chaîne de magasins de jouets.
À un mois du début des Jeux Olympiques, la France est noyée dans une crise politique profonde. Cérémonie d'ouverture, baignade dans la Seine, transport, sécurité, tourisme, sponsoring, rayonnement international, tout le paysage est figé depuis la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. C'est donc notre focus du jour. On a voulu se demander aujourd'hui, à quelques semaines du lancement des Jeux Olympiques de Paris 2024, la crise politique a-t-elle évincé le rêve olympique? Et pour en parler, mes experts du jour, Valentin Richardot, bonjour.
Salut.
Merci d'être là. Tu es fondateur de J'ai un pote dans la com. Et à côté de toi, Valran Moulet-Berthaud, bonjour, bonjour.
Salut Rebecca.
Merci d'être là. Tu es fondateur du groupe média Le Crayon. On commence par notre sondage. Comme d'habitude, la réponse est oui. La crise politique a évincé le rêve olympique. Oui, totalement, à 66%. Comment est-ce qu'on interprète ce résultat?
Je pense qu'on l'interprète déjà dans la couverture médiatique où, au final, du jour au lendemain, sur une décision prise par le président, ça a été le branle-bas de combat dans absolument toutes les rédactions, y compris la nôtre au Crayon, donc je suis bien placé pour le dire. Et en même temps, ça a mis du coup en second plan tous les autres sujets, dont celui des Jeux Olympiques, qui était un sujet dont on parle quand même depuis longtemps. On parle même depuis 6 mois, 9 mois, 1 an avant les Jeux Olympiques, donc ça fait longtemps que le sujet est dur. Je pense que le sujet, du coup, a été en fait beaucoup traité avant cet épisode de dissolution. Et donc, en fait, ça a quand même créé une forme presque de respiration sur le sujet, au point même que les gens ont presque oublié que, en fait, bah, c'est dans un mois, il y a les Jeux Olympiques à Paris. Et je pense que ça a vraiment renforcé ce côté, la manière dont on occupe l'espace, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, où au final, aujourd'hui, les Jeux Olympiques, à part un peu dans les domaines de la publicité et la communication, on en entend assez peu parler.
On va revenir sur tout ça, parce que là, aujourd'hui, les médias sont en édition spéciale permanente, en effet, donc le sujet passe au second plan. Mais selon toi, on en a assez parlé ces derniers mois?
Je ne sais pas si on en a assez parlé d'un point de vue du volume. Je pense que les gens ont eu l'impression qu'on en avait assez parlé. Et moi, je m'en rends souvent compte parce que sur les réseaux sociaux, il y a toujours un sujet qui est que on ne peut pas réussir. En fait, on n'est pas dans des émissions de flux. Donc, ça a une notion différente qui est que chacune de nos publications, de nos émissions, de nos vidéos va avoir une portée différente en fonction d'à quel point le public le reçoit. Et nous, au Crayon, on a traité plusieurs fois des Jeux Olympiques et ça a été quasi à chaque fois les pire score. Et en fait, ce qu'on aime bien dire nous, chez nous, c'est que sur les réseaux sociaux, on a généralement un score quand on traite un sujet où il y a une très forte demande et une très faible offre. Et à l'inverse, les sujets où il y a une faible demande et une très grosse offre, au contraire, performent très mal sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour les Jeux Olympiques.
On viendra, très intéressant ce concept d'offre et de demande. Presque deux tiers, hein, 66%. Valentin, tu interprètes ce résultat comment?
C'est assez éloquent, hein, comme résultat. On s'en doutait un peu et il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup d'éléments qui nous ont permis déjà de le savoir un petit peu. Déjà, nous, en France, on est un peuple qui aime bien la politique. Donc, quand ce sujet est arrivé, tout le monde s'en est emparé. Évidemment que tout le monde a débattu, a discuté. Et il y a un peu ce sentiment aussi de beaucoup de JO avant, beaucoup de grandes annonces, beaucoup de marques, beaucoup d'élus qui prenaient la parole. Et aussi beaucoup de côtés négatifs qu'on a soulignés et qui, aujourd'hui, sont importants chez les Français, qui, rappelons-le, n'est quand même pas non plus une nation de grands sportifs. On a beaucoup de grands clubs et beaucoup de victoires avec l'équipe nationale dans plein de sports, mais les Français, au quotidien, ne sont pas forcément de gros sportifs. Donc, on leur parle de quelque chose qui paraît un peu loin de leur quotidien.
Cette semaine, Tony Estanguet a annoncé qu'1 million de billets a été vendu pour les Jeux paralympiques, encore très loin de l'objectif des 2,8 millions de billets vendus comme objectif. Un cap symbolique, mais il y a encore du travail, a-t-il dit. Le comité lance donc une campagne. Je cite, 3 athlètes paralympiques tricolores proclament notamment ne manquer de rien, sauf du public français. Est-ce que ça touche presque au désespoir, cette campagne ?
Non, je pense pas. C'est à l'inverse. Ça va donner du sens à nos métiers, ceux de la com. Et on sera là, évidemment, les professionnels seront là pour répondre à la demande. Mais ça dit aussi que ce pays-là, il est spécifique. Le peuple français, il est spécifique. Il soutient beaucoup de choses. Et en même temps, quand on l'amène à se bouger, il est un peu plus lent. Donc cette campagne, je pense qu'elle est d'utilité publique. C'est du bon sens et il faut que les gens se mettent ça en tête. Donc ça va être un travail de présence à l'esprit, de notoriété des athlètes. On les connaît très peu, donc il va falloir les mettre en avant, apprendre à les connaître et donc à les aimer et ensuite à créer de l'engagement et à les supporter. Donc oui, c'est du bon sens et c'est une bonne campagne. Je pense qu'il faut qu'elle ait lieu parce que ça se fera pas tout seul. On le voit littéralement.
C'est très juste ce que dit Valentin, parce qu'en fait, on se rend compte que la communication a une dimension hyper importante dans le sport, parce que le sport reste un business de l'attention. Et comme tout business de l'attention, le fait d'être bon dans la communication a son importance. Et je vais prendre 3 exemples pour le montrer. Le premier, c'est l'exemple de l'UFC, qui a explosé ces derniers temps, alors que c'était un sport assez minime il y a une dizaine d'années. Et il a explosé parce que la communication dessus a été réussie. La deuxième chose, c'est la série sur Netflix sur la Formule 1, qui a littéralement fait diminuer de 5 ans l'âge moyen des téléspectateurs et augmenter les audiences de x2,5. Donc c'est quand même vraiment pas négligeable. Et la troisième chose, c'est les ligues amateurs. On pense notamment aux Twitchers et aux streamers Amine et Billy qui avaient organisé un France-Espagne où il y avait eu des scores supérieurs à des matchs de Ligue 1 alors que c'était du football amateur. Donc finalement, la question de marché de l'attention est à mon avis un des sujets sur lesquels ils doivent se mobiliser et un sujet sur lequel effectivement nos métiers de la com doivent être mobilisés pour justement réussir ce genre de performance, de redresser un peu cette barre-là, qui est quand même symbolique d'un million de tickets vendus, c'est pas rien non plus.
On parlait de la campagne pour les Jeux paralympiques. Le Comité international olympique a sorti sa campagne cette semaine avec l'agence GUT. Est-ce que vous la trouvez réussie ? Est-ce qu'elle va être efficace ?
C'est une bonne question. C'est toujours dur de répondre à ça, qui à chaud, elle vient de sortir. Moi, je trouve que plus largement, elle rentre dans une démarche d'autres campagnes. Elle s'immisce, elle s'insère dans une prise de parole plus globale de plein de marques qui veulent capitaliser sur ça. Et c'est plutôt juste. On le sait, hein, tu l'as dit, on l'a vu, la Coupe du Monde de rugby l'a montré. Le sport, il est hyper important pour les marques parce que c'est facile, c'est cohérent, c'est logique de capitaliser sur les valeurs du sport. Donc, cette campagne-là, elle est dans la continuité des autres, elle est bonne, elle joue sur l'émotion, on voit des visages, on s'identifie, il y a différents types de profils. Donc moi, je la trouve bonne. Maintenant, est-ce qu'elle est un peu tard ? Elle n'est pas très tôt, en tout cas, mais elle est bonne. C'est une bonne campagne et on l'a vu juste ensemble avant, elle fonctionne bien.
Moi, je la trouve très bonne aussi. En revanche, je l'ai trouvée pas parfaitement découpée pour les réseaux sociaux. C'est peut-être pas forcément la cible prioritaire, mais d'un autre côté, je trouve qu'aujourd'hui, il peut y avoir des canaux d'acquisition assez puissants sur les réseaux sociaux que j'ai trouvé, en tout cas à titre perso, que toutes les campagnes olympiques ont vraiment beaucoup misé sur les canaux traditionnels. Et je pense
peut-être
que c'est
peut-être pas assez sur le digital.
Peut-être pas assez sur le digital, alors qu'aujourd'hui, le digital a quand même montré des performances exceptionnelles dans plein de domaines, notamment le sport. Et c'est là où je trouve que c'est dommage.
Vous me faites la passe sur les marques, puisque le ticket d'entrée pour un sponsor est estimé entre 100 et 150 millions d'euros. Est-ce que, selon vous, l'actualité nationale, l'actualité politique, le contexte actuel va impacter le retour sur investissement de ces marques-là pendant les Jeux Olympiques ?
Je pense qu'en ce moment, elles sont un petit peu en stress. Je pense qu'elles regardent beaucoup, elles font beaucoup de social media listening, elles regardent, elles font de la veille, elles analysent. C'est un gros billet, c'est un gros enjeu pour ces marques-là. Il y en a des très grosses, il y en a des moins grosses, mais ça reste une dépense qui est évidemment importante. Je pense qu'il y a la peur, il y a une peur que ça impacte, parce que la non-volonté déjà inhérente des gens d'aller voir les JO elle est déjà là, la non-motivation. On rajoute à ça des enjeux un peu politiques, un peu de pouvoir d'achat, de sécurité à Paris, parce qu'on a aussi cet esprit-là, cette idée que c'est pas très sécur de sortir. En tout cas, il y a l'idée-là dans la tête des gens. Donc, oui, les marques, je pense, regardent. Je suis pas certain que ça va vraiment changer la donne, mais s'il n'y a pas... forcément de la part des marques une deuxième vague avec des nouvelles campagnes, des activations plus péchues, plus techniques avec des créateurs, ce qui va arriver pendant les JO. S'ils le font pas très tôt, ça va un peu redescendre. On sent qu'on est un peu en...
Ça manque d'innovation marketing.
Ça manque d'idées peut-être. Le sponsoring, parfois, il est un peu léger. On l'a vu, il y a des marques qui ont fait des bonnes choses, mais je pense que là, il faut qu'ils rejouent un peu avec les créateurs qui vont être à même de rassurer tout le monde.
C'est une très bonne remarque et je mettrais aussi un fait dont j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout assez commenté ça, parce que c'est évidemment les élections législatives qui se rajoutent au milieu de tout ça, mais qui se rajoutent au milieu du Festival de Cannes, de Roland-Garros, de l'Euro de football, du Tour de France. Et donc en fait, je pense qu'il y a aussi une espèce de trop-plein, je sais pas, mais en tout cas une illisibilité. Et nous, je sais, parce qu'on communique beaucoup avec mes cofondateurs sur les réseaux sociaux, et c'est une des choses qui nous est beaucoup revenue aux oreilles, qui est on ne comprend plus rien. On a l'impression que tout se chevauche, et les élections législatives n'étant pas un calendrier un peu anticipé d'événements sportifs, c'est même rajouté en fait à tout ça, en étant un petit peu sur Roland-Garros, un petit peu sur l'Euro de football, un petit peu sur le Tour de France, un petit peu sur les Olympiques, et en fait à brouiller toutes les pistes, et en fait on ne comprend plus vraiment quel est le calendrier. Et je pense que pour les marques, dans du sponsoring, le calendrier a énormément d'importance, parce que le fait d'avoir un événement qui va occuper beaucoup d'espace, même un peu avant et un peu après l'événement phare, c'est une des grosses choses qu'on peut valoriser dans du sponsoring.
La question, c'est qu'ils vont aussi réajuster, là ils sont en train, de réajuster un certain nombre d'activations plus légères qui vont soit annuler, soit décaler, soit remodifier, mais c'est sûr qu'en ce moment ils sont en train de bosser un peu fort pour rester sur le bon ton.
Les marques naviguent un peu à vue, comme on peut le dire. Merci Valentin Richardot, merci Valentin Mouliverto d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais évidemment, et surtout partout en replay et sur nos réseaux sociaux et sur l'application de BFM Business. Et comme chaque semaine, on termine avec notre campagne préférée qu'on a sélectionnée avec CB News. Et cette semaine, notre campagne chouchou parle d'une offre de restauration plus actuelle que jamais, avec notamment un menu plat dessert à petit prix à 8€ avec frites et légumes à volonté, mais l'enseigne peine à être considérée face à la puissance de la communication de la restauration rapide. C'est le nouveau film de Flunch et c'est une comédie signée Éric Judor avec l'agence Steve. Très bon week-end sur BFM Business.
Oh, double ration de frites ? Combien ça va me coûter, ça, encore ? Ah, voyons, deux fois des frites.
Il va ruiner ses parents.
Attends, quitte pas, je crois qu'il y a un mec qui est en train de reprendre des frites.
Il en a repris, le gars.
C'est pas vrai, jure.
Non.
Si, je te jure, double portion. Dis pas ce papa, il va halluciner.
Tu sais, j'ai rien, il a aussi pris des brocolis.
Pose cette frite.
Chez Flunch, les frites et les légumes sont à volonté.
Et c'est 8€ le menu plat dessert chez Flunch, avec frites et légumes à volonté.
Il a pris des frites!
Pardon.